La parole du jour avec Claude Frisch, diacre. Bonjour à tous. Je vais, pendant ces cinq émissions, vous parler des pères de l'Église. Alors, les pères de l'Église, d'abord, ne pas les confondre avec les docteurs de l'Église. Les docteurs de l'Église, c'est à n'importe quelle période au cours des siècles, et c'est un apport particulièrement riche, comme ce qu'a produit Sainte Catherine de Sienne. Non, les pères de l'Église, en fait, ce sont des lettrés, on va dire, qui viennent juste après les apôtres. Donc, les pères de l'Église, c'est vers la fin du 1er siècle de notre ère. Le temps des apôtres est à peu près clos, les derniers témoins du Christ sont morts, les textes du Nouveau Testament à peu près écrits. C'est une nouvelle génération qui commence, qui n'est plus là pour révéler, mais déjà pour recevoir, interpréter et transmettre. Alors, qui sont-ils, ces pères de l'Église? Que font-ils et dans quel but? Alors, est-ce que ce sont de nobles vieillards à laisser sommeiller en paix? Pas si sûr. C'est plutôt des fortes personnalités dans cette Église qui finalement est très jeune, des hommes qui ont laissé une empreinte profonde par leur vie et leurs écrits. Mais ils sont très loin, donc qu'ont-ils à nous dire? Alors d'abord, qui sont-ils? Ce sont tous des écrivains, alors des évêques, des prêtres, des diacres ou des laïcs. C'est par leur pensée et leur œuvre qu'ils ont servi l'Église de leur temps. Ils ont voulu répondre à des questions, des défis, des dangers. Comment discerner, au début de cette Église, le vrai quand s'affrontent des présentations divergentes de la foi? Comment inventer son chemin car rien n'était tracé encore? C'était un monde difficile, il fallait garder l'unité et la fidélité à la foi des apôtres. En fait, c'est le grand écart, le grand pari réalisé par ces pionniers de la foi. Le titre de père de l'Église est un titre canonique, c'est-à-dire qu'il prend sens à l'intérieur de la tradition chrétienne. Alors les critères, il y en a quelques-uns. Il faut une doctrine orthodoxe, c'est-à-dire qui ne soit pas jugée déviante par rapport à l'Église, une sainteté de vie, l'approbation de l'Église, et correspondant au temps de la naissance de l'Église, c'est-à-dire l'Antiquité. Le temps des pères de l'Église commence après celui des apôtres, c'est-à-dire en gros vers l'an 100, et s'achève à la fin de l'Antiquité. Alors pour l'Occident, à la fin du 5e siècle, et en Orient, jusqu'au 8e siècle. Alors, il n'y a pas de mère de l'Église, désolé, mais c'est bien par rapport à la réalité sociale et culturelle de l'Antiquité qui faisait que peu d'hommes déjà avaient accès à une éducation un peu poussée, et pour les femmes, c'était bien pire encore, d'où le fait qu'aucune femme n'a laissé d'écrit. Mais des femmes ont joué dans l'Église ancienne un rôle important. Pensons pour le IVe siècle à Monique, la mère d'Augustin. Alors où vivait-il? Principalement dans des grandes villes, assez souvent qui correspondent aux premières communautés chrétiennes importantes, Antioche, Alexandrie, Athènes, Rome, Carthage. D'abord en Orient, puis au Proche-Orient, en Asie mineure, l'actuelle Turquie, en Grèce, puis en Occident, Italie, Afrique du Nord, Gaule par la vallée du Rhône. Alors, quel est leur intérêt pour nous? Eh bien, les pères ont accouché de la doctrine chrétienne dans ses grandes lignes. C'est un travail de fondation, d'où le nom de père. Avec le Moyen-Âge, une autre époque s'ouvrira, celle des grandes constructions théologiques. Mais le temps des pères, c'est celui de la formulation des grands dogmes et des symboles de la foi, de la structuration première de l'Église avec ses grands ministères, évêques, prêtres et diacres. Alors regardons un peu l'Église primitive. Comment était-elle organisée? À quoi elle ressemble au IIe siècle? C'est une Église locale Il n'y a pas de structure qui dépasse cette réalité simple. Une communauté de disciples en un lieu, réunis par la même foi, se retrouvant autour d'une même table, le jour du Seigneur, au petit matin, avant d'aller au travail. La question se pose du lien de cette église locale avec les autres églises locales, qui se posera progressivement. Une deuxième caractéristique, c'est une église, une communauté qui se rassemble autour de l'évêque. D'abord dirigée par un collège d'anciens, les presbytres, mot qui a donné prêtre, souvent d'abord synonyme d'épiscope, évêque, mais très vite au cours du IIe siècle, on distingue le responsable de l'église locale qui devient unique. C'est l'évêque qui a autorité sur elle et la représente auprès des autres églises. L'évêque a aussi d'autres auxiliaires, les diacres et les presbytres. Dans cette église du IIe siècle, on lit les écritures des Juifs principalement. Quand on dit écriture chez les chrétiens, il s'agit de la même chose que chez les Juifs. Les chrétiens n'ont pas d'autres écritures que ce qu'on appellera par la suite Ancien Testament. Les textes qui vont composer le Nouveau Testament circulent déjà sous leur forme à peu près définitive, mais il faut attendre Irénée vers 190 pour que cet ensemble de textes soit considéré aussi comme écriture et soit rassemblé sous l'appellation de Nouveau Testament. Alors, qui sont ces chrétiens en ce temps-là ? D'abord, il faut se rappeler que les pères de l'Église et l'Église à cette époque, les chrétiens venaient d'un milieu social souvent modeste. La foi nouvelle mettra du temps à pénétrer dans les hautes couches de la société, parce que, au départ, beaucoup de lettrés répugneront longtemps à adopter cette religion de gens simples, prêchée par des pêcheurs de Galilée. Mais à partir du IIIe siècle, on trouve déjà des chrétiens parmi les élites. Une partie de ses disciples sont des soldats, des commerçants, c'est-à-dire une catégorie de population qui se déplace beaucoup, facteur d'expansion pour la nouvelle religion de l'Orient vers l'Occident. Alors, ils sont de cultures diverses. Le berceau du christianisme est la Palestine romaine, mais c'est surtout un milieu de langue grecque. Tous les textes que nous possédons du Nouveau Testament ont été rédigés dans cette langue, sans exception. Et puis, à partir du IIe siècle, le christianisme se répand dans le monde latin, puis dans le monde syriaque de culture sémitique. Dès le IIIe siècle, sans doute, on voit apparaître en Égypte un christianisme de culture copte, et puis au IVe siècle, la foi nouvelle atteint les Goths. Au Ve siècle se développe un christianisme arménien et géorgien, puis éthiopien. En 400 ans, environ, l'expansion concerne tout le monde habité, au-delà même du pourtour de la Méditerranée. Alors le grand écart, c'est les Juifs et les chrétiens. À l'origine, tous les disciples de Jésus sont Juifs. Avec Paul, la foi nouvelle est prêchée au-delà des frontières d'Israël. C'est le début d'une évangélisation rapide du monde païen. Mais pendant les 100 premières années et plus, beaucoup de disciples sont encore des Juifs. Alors comment vivent-ils cette double appartenance ? Dès le Nouveau Testament, apparaissent des signes de tension entre les disciples et les hypocrites, entre guillemets, qui désignent soit les Juifs, soit les judéo-chrétiens, qui continuent à pratiquer la loi juive. Progressivement, les communautés chrétiennes se composent de plus de chrétiens d'origine païenne que d'origine juive. Il y a une grande incompréhension, surtout après la destruction du Temple en 70. Les judéo-chrétiens, souvent appelés par dénigrement « judaïsants », ne veulent pas manger à la même table que les païens, ce qui devait les empêcher de célébrer ensemble l'Eucharistie. À l'inverse, ils comprennent la figure de Jésus selon des catégories purement juives et refusent la christologie haute de Jésus, fils de Dieu. Jésus, Dieu, Jésus, Verbe divin, qui commence à se répandre et même à s'imposer. Ces judéo-chrétiens se trouvent peu à peu marginalisés et traités comme un groupe hérétique. La rupture est consommée dans la deuxième moitié du deuxième siècle. Alors enfin, une dernière caractéristique, c'est le christianisme et l'Empire romain. Alors, le christianisme, au début, n'est pas distingué du judaïsme par les autorités et bénéficie donc de la même tolérance. Mais dès que le pouvoir commence à faire la distinction, les chrétiens sont de plus en plus exposés. Et comme leur propre intolérance vis-à-vis des autres cultes les amenait à refuser toute allégeance aux dieux de Rome ou au culte impérial, ils furent vite considérés comme des ennemis de l'Empire. Le temps des persécutions était ouvert. Dans les deux premiers siècles, ces persécutions étaient toujours ponctuelles dans le temps et dans l'espace. La première persécution générale des chrétiens, à l'échelle de l'Empire tout entier, date seulement de 250, sous l'empereur Dèce. Entre les périodes de persécution, les chrétiens étaient laissés en paix et pouvaient se développer. Mais il faudra attendre, bien sûr, l'empereur Constantin qui mettra fin aux persécutions et même favorisera très fortement le christianisme à partir de 312 après sa propre conversion.